Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Merci, Samuel. Où les paroles sont affichées. Philippiens. Paul écrit à une jeune église qui se trouve dans la ville de Philippe. Et on va regarder ça ensemble ce soir. Et c'est une lettre qui est un peu particulière. Et on va creuser quelques points par rapport à ce texte que je viens de lire. Notre Père, merci parce que tu nous as laissé la parole de Dieu, qu'elle est complète. Il n'y a pas besoin de rajouter un 67e livre. Seigneur, c'est complet, c'est parfait. Merci pour ce cadeau que tu nous as laissé. Et merci pour ce qu'elle contient. Et merci pour la nourriture ou la portion ce soir qu'on peut étudier ensemble. Et je te demande que tu parles à chacun. Seigneur, s'il y a des brouillards dans les pensées, s'il y a de l'agitation, que ça se calme maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce puisse rejoindre notre cœur et nous faire du bien. Seigneur, tu nous envoies ta parole, ce texte, et au travers elle, tu veux agir, tu veux qu'elle soit agissante alors qu'on y met de la foi, que c'est une parole que tu nous donnes personnellement. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Voilà ce texte de l'épître, la lettre aux Philippiens. On va reprendre, on va un petit peu dégager quelques pensées. Paul commence par dire au verset 3, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Donc il y a les salutations habituelles, qui sont les auteurs, ils sont deux, c'est Paul et Timothée. Et puis Paul commence en disant, « Eh bien, je dis ma reconnaissance. » C'est chouette, c'est une bonne lettre, ça commence bien. Hein « Ah, j'ai un bon souvenir de vous. » Et j'avais envie de vous écrire, alors voilà, à chaque fois que je me rappelle de vous, j'ai un bon souvenir. C'est Paul et Silas ou Sylvain qui a annoncé la parole dans la ville de Philippe. Philippe, c'est une colonie romaine, donc il y a des Romains partout. Astérix, Obélix, ça vous dit quelque chose? C'est un peu comme ça, en moins sympa quand même. Mais voilà, donc Paul et Sylvain ont lancé la bonne nouvelle. Et comment ils ont commencé? Eh bien, tout simplement, ils sont allés le jour du sabbat, le samedi, vers une rivière, parce que d'habitude, c'est là, quand il n'y a pas de synagogue, dans les villes du pourtour méditerranéen, que les Juifs qui habitent dans ces villes se rassemblent s'il n'y a pas de synagogue. On allait au bord d'une rivière, puis voilà, ça se savait que c'était le lieu de prière. Alors ils vont là-bas, ils sont juifs, hein, ils y vont. Et on va aller à la prière ou au culte à cet endroit-là. Et puis qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh bien, ils trouvent quelques juifs qui sont là, ou des craignants Dieu, comme on les appelle à l'époque. C'est-à-dire, ils ne sont pas juifs, mais ils respectent Dieu, ils aiment Dieu. Et Dieu n'est pas limité au peuple juif, mais voilà, ceux qui ont faim et soif, eh bien, la Bible nous dit que si on cherche, on va le trouver. Yes, amen. Les Onésiens qui le cherchent vont le trouver. Yes. Et ça, on s'en réjouit. Donc, ils sont là. Et puis, Paul, ben, parce qu'il a l'habitude, ou je sais pas, il a envie de parler, il parle. Et Dieu ouvre le cœur d'une personne qui s'appelle Lydie. C'est une femme donc, qui n'est pas juive, mais qui est craignant Dieu, comme on les appelle. Et puis, donc c'est le bourgeon, c'est la première pousse de l'église de Philippe, là, ce petit groupe, parce que les gens vont se convertir. Mais ça ne sera pas tout rose. Dans la suite de Acte 16, là on voit la naissance de l'église de Philippe. Eh bien, après donc, cette sortie au bord de la rivière, c'est un peu moins glamour, puisque Paul est suivi par une femme qui est employée ou esclave d'un groupe de commerçants. C'est une femme qui a un esprit mauvais, qui fait de la divination, voilà, qui annonce, entre guillemets, prophétise sur l'avenir. Mais elle leur casse les pieds parce qu'elle leur dit une demi-vérité. Lisez dans Acte 16, elle crie aux gens qui sont autour, ces hommes-là, ils annoncent une voie de salut. Alors dans le texte en second, c'est marqué la voie du salut, mais dans le grec, c'est marqué une voie de salut. Donc elle les perturbe, Et puis elle est là à crier, puis elle, c'est pas, elle a annoncé l'évangile, elle est possédée, quoi. Comment ? Là, je comprends plus le diable ne va jamais annoncer l'évangile, n'est-ce pas ? On est d'accord, une maison divisée contre elle-même, voilà. Mais bon, du coup, Paul, par l'esprit, agacé, ou je ne sais pas, il prend autorité, il chasse l'esprit mauvais de cette dame, et la femme ne peut plus prophétiser des choses qui entraînaient le commerce et la prospérité d'une partie de cette ville-là. Alors évidemment, ça se passe mal. Imaginez que vous allez, je ne sais pas moi, est-ce qu'on a un peu l'équivalent à Genève ? Pas trop. Imaginez, vous allez dans plusieurs salons de massage, et pas pour vous faire masser, mais vous allez annoncer la voie du salut. Et puis là, les prostituées qui sont là, avec le Mac qui entend, se convertissent. Enfin, le Mac, il se convertit pas tout de suite. Ça va chauffer si vous faites ça. Tout le business s'effondre, en tout cas de ce salon de massage. Vous savez ce que c'est un salon de massage ? Je suis jamais allé. N'allez pas croire que des choses sur moi. Mais voilà, elles se convertissent. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la boutique, elle ferme. Ben, c'est un peu ce qui se passe, sauf que c'est un peu plus grand. Et c'est dans le domaine de l'occulte, à Philippe. Mais cette femme, moi j'imagine qu'elle s'est convertie. On n'a pas la suite exactement du texte. On peut pas, la Bible ne dit pas tout. Mais elle se convertit. Donc on a Lydie, on a cette femme que Paul, entre guillemets, engage, qu'elle n'est plus de l'autre côté. Et puis, ils se font mettre en prison. La foule est là, elle voit ce qui se passe, elle entend. Certainement qu'il y en a qui sont touchés, qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un message que je n'ai jamais entendu. » Il y a une femme, là, je la connaissais, elle donnait des oracles, voilà. Et puis, elle ne peut plus. Alors, Paul et Sylvain, ils se font mettre en prison. Chandelon, direct. La pression de la foule, certainement que dans la foule, il y avait des chefs, etc. Direct, sans passer par la case justice. Et ils sont là, dans cette prison. Avant, ils se sont quand même fait tabasser. Donc, c'est pas rien. Ils sont le dos et les côtes certainement cassés. Ils souffrent, mais dans la prison, il y a quelque chose qui brûle en eux. Plus fort que la douleur, plus fort que les chemises déchirées, etc. Et ils chantent les louanges de Dieu, et puis Dieu dit « J'arrive ». Vous vous rappelez ? La prison, les portes s'ouvrent. Mais Dieu a un plan pour Philippe, la ville de Philippe. Il a un plan, même si ça passe par la souffrance, la persécution et la douleur. Il y a des côtés fun quand on est chrétien, il faut le dire avec Dieu. Il y a des trucs géniaux qui se passent. Puis il y a l'autre côté, c'est qu'on peut s'en prendre plein la figure. C'est comme ça, il faut accepter le deal. On a dit oui Seigneur, enfin je sais pas, moi j'ai dit oui Seigneur, alors il m'a amené là. Ben voilà, des fois il y a des conséquences, ce monde n'est pas gentil, il faut le dire. Et c'est ce qui se passe pour Paul et pour Sylvain. Mais là dans cette prison, le geôlier, je la fais court, se convertit. Et les prisonniers, certainement qu'il y en a qui se convertissent. Il y en a qui se font la belle, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas trop, mais la sécurité, voilà, laisse à désirer. On a Lydie, on a cette femme possédée, qui était possédée d'un esprit mauvais. On a quelques-uns de la foule, certainement, qui ont vu. On a le geôlier, on a sa famille. Qui d'autre ? Et des prisonniers. Et tout ça, petit à petit, ça devient une famille spirituelle. Ça, c'est l'église de Philippe. Pourquoi je dis ça ? Le texte ne dit pas que ça devient une église, mais c'est une évidence parce que Paul, après, il écrit à Philippe, lettre à l'église de Philippe. Ben, c'est qu'il y a une église. C'est que c'est devenu une famille spirituelle. Et puis on voit dans les salutations, dans toute cette épître et dans les salutations particulièrement, on voit l'affection, l'amitié, l'amour qu'il avait pour cette église. Ah, je me rappelle de vous à Philippe, c'est trop génial. Il ne leur dit pas que, enfin je crois pas, hein, qu'il a été fouetté, que j'ai encore les cicatrices, pauvre de moi, mais il leur dit... Il y a quelque chose que Dieu a fait dans cette ville. J'y étais à leur hache, à l'instant T où Dieu a commencé à faire quelque chose. Et je me souviens de ça. Donc tout ce verset 6, c'est un peu ça. Je me souviens, j'ai un bon souvenir de vous. Je vous aime tous tendrement. Peut-être vous voyez où je veux en venir. Hein ? Dieu a commencé quelque chose ici. Dieu fait quelque chose à Aunay. Dieu est vivant. Il a commencé, il va pas s'arrêter là, hein ? Il le dit du reste. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Yes. Alors des fois, on prend ce verset en disant « Seigneur, ce que tu as commencé dans ma vie, continue de me sanctifier. » Mais Dieu, il dit non, mais attends. Alors pourquoi pas ? Mais c'est d'abord l'œuvre qu'il a faite, qu'il a commencé à faire dans la ville et l'église qu'il y a plantée. Et il prie pour eux, verset 4, « Dans toutes mes prières, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. » Donc, cette famille spirituelle qui se forme, un groupe de chrétiens, là, enfin, je ne sais même pas si ça s'appelait déjà chrétien à l'époque, peut-être pas, eh bien, ils ont pris part à l'Évangile, ils sont impliqués, la mayonnaise a prise. Ils ont dit « Ah, on a reçu l'Évangile, Christ est dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soutenir, panser les plaies de Sylvain et de Paul. Ils les ont soignés, ils les ont hébergés. « Venez chez moi, dit Lydie, j'ai une grande maison, femme d'affaires, j'ai de quoi faire, je vais vous loger quelque temps. » C'est génial ça, tout de suite. C'est formidable, hein, l'amour en action. Du reste, il les loue, il fait des louanges sur l'amour qu'il y a à Philippe, dans cette église de Philippe. Et donc, au verset 6, « Dans toutes mes prières, j'exprime la joie, parce que vous êtes, entre guillemets, impliqués dans les conséquences de l'annonce de l'Évangile et de ce qui s'est passé. La greffe a prise, ou la mayonnaise a prise. » On saute dans le temps. La lettre aux Philippiens. Donc il y a la constitution d'Église, acte 16 de Philippe. Maintenant, Paul, plus tard, leur écrit une lettre. C'était sa manière à lui d'encourager les églises, les communautés par lesquelles il avait soit participé à leur création, soit il connaissait comme ça de nom, il avait à cœur. Mais Philippe, il connaît bien cette église de Philippe. Mais là, il est à Rome. Et puis, hasard, entre guillemets, donc, vous savez, il est à Rome parce qu'il a fait appel à César. Il dit, je ne veux pas être jugé par un tribunal dans une autre colonie, je veux aller à Rome. Je suis citoyen romain, c'est mon droit, je fais appel, on va jusqu'à Rome. Voilà, c'était son droit et il l'utilise. Et bien sûr, il y a un plan de Dieu là derrière. Il est à Rome, il est dans une résidence qu'il loue, mais il ne peut pas sortir. Bracelet électronique, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Il ne peut pas sortir, il n'a pas le droit. Il est quand même sous la surveillance des Romains. Et plusieurs chrétiens de Rome viennent le visiter de temps à autre. Parmi ceux qui viennent le visiter, eh bien, il y a Timothée, puisque c'est mentionné dans l'Épître plusieurs fois. Timothée, c'est le disciple à Paul. C'est celui qu'il aime et ils s'aiment les deux. Vraiment, c'est son fils bien-aimé. Il a de l'affection pour lui. Timothée, ça veut dire celui qui adore Dieu. Et puis il y a un autre qui a un prénom assez sympa, c'est Épaphrodite. Épaphrodite. Timothée, celui qui adore Dieu. Épaphrodite, charmant, aimable. Charmant, aimable. Que veut dire ton prénom ? Est-ce qu'il y en a qui font comme ça ou pas ? Mais c'est intéressant ces deux prénoms. Donc il y a Paul, et puis de temps en temps, aux heures de visite, eh bien, il y a Timothée qui vient, celui qui adore Dieu. Et puis il y a Épaphrodite, celui qui est aimable. Vous savez quoi ? La prière, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup la prière. Mais on a besoin de l'affection des uns des autres, de l'amitié fraternelle. On a besoin de ça. On ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. C'est Dieu, il fait de nous un corps. Et ben, on a tous une place et on a besoin de cette amitié. Et Paul, pour pas qu'il manque de cette amitié fraternelle, eh bien, Dieu lui envoie Épaphrodite et Timothée. Waouh, quelle consolation pour lui. Il le dit. Dans cet épître aux Philippiens, il est très encouragé. Et puis dans la deuxième à Timothée, plus ou moins à la même époque, pas tout à fait, dans l'attente du procès, on voit une certaine solitude et une difficulté pour Paul. Mais on sait qu'il y a un Timothée et un Épaphrodite qui sont là. Il y en a d'autres qui ont essayé de le visiter, puis qui se sont barrés après, excusez-moi du langage, Démas qui est venu, puis rien à fiche de Paul, j'aime le monde, voilà, etc. Donc dans la réalité de Paul, Timothée et Épaphrodite sont des encourageurs. Paul est toujours à Rome. Qu'est-ce qu'il fait dans son temps ? Eh bien, il prie, il aime faire ça, il écrit ses prières, il envoie ses prières à d'autres, et puis il les encourage donc par des lettres. Ça, il pouvait écrire, et ça, c'est chouette. Et puis, dans ces lettres, il ne faut pas oublier qu'il y a les matons qui sont là, les surveillants de prison qui sont là. Ils ont le droit d'ouvrir son courrier. Ils ont le droit de filtrer les visites, etc. C'est leur rôle, parce qu'il est quand même prisonnier. Alors, dans la lettre aux Philippiens, il y a des choses un petit peu en filigrane qui sont là. Puis on se dit, Peut-être qu'il n'a pas tout dit, Paul, parce que ça pouvait tomber entre de mauvaises mains. Peut-être, c'est possible. Alors il dit certaines choses. Que dit-il ? Il dit par exemple, vous savez, je suis là, versets 12 et 13, est-ce que tu peux les mettre, Samuel ? Je suis là, ok, je prie, ok, j'envoie des lettres, versets 12 et 13 du chapitre 1er, et il y a une chose que j'ai à cœur de faire, dit Paul, et je peux le faire. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé, on comprend maintenant, hein, plutôt, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc je suis en prison, je suis au château, mais ça contribue au progrès de l'Évangile. Comment ? Verset 13, « En effet, donc ce qui était la prière jeudi, vous savez ce que ça veut dire, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Les gens causent, toujours, ça cause. Pourquoi Paul, t'es en prison ? Alors les soldats causent, ceux qui viennent le visiter, etc. Ah, c'est pour Christ que je suis en prison. Quel est le motif ? Quel est ton motif d'accusation ? C'est parce que je suis à Christ que je suis là. Et il le dit, et il témoigne, et il bénit les gens, etc. Il le dit, donc en effet, comme ça, vite fait, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Partout ailleurs. Alors, c'est quoi le prétoire ? Eh bien, donc ce qui était jeudi, vous le savez, normalement, le prétoire, c'était plusieurs choses. Ça pouvait être plusieurs choses. C'est soit directement la tente ou le logement de l'empereur romain. Donc on comprend, donc soit, je dis après, soit soit Paul, il est tout près du logement de l'empereur. Et à l'époque, l'empereur, vous savez qui c'était ? Oui, non, Néron. Néron, un des pires sanguinaires pour les chrétiens. Néron, un des pires. Donc on est à Rome. Paul est au temps de Néron à Rome, et c'est possible, probable, qu'il soit tout près du pire persécuteur, un des pires persécuteurs qui a versé le sang de certains chrétiens, etc. Un gars, il faudrait faire un diagnostic psychologique, psychiatrique, mais grave, comme on dirait aujourd'hui. Bref, alors le prétoire, c'est soit Paul, il est tout près de Néron, et ça rigolait pas avec les Romains, soit il est tout près de la garnison romaine, ce qui est très probable, c'est-à-dire les soldats qui sont attachés à l'empereur directement, les proches, quoi, les gardes du corps. Soit il est tout près, donc ce qui est très probable, ou ça peut être encore autre chose, ça peut être que Paul il est tout près des logements où le personnel esclave ou civil sert l'empereur. Ça peut être, voilà, tout cela. Ça peut être aussi... Alors, on ne sait pas trop, j'ai cherché dans les commentaires, on ne sait pas trop, mais ça pourrait être aussi que Paul se trouve près de la famille de Néron. Donc, là où Paul est, avec Timothée, etc., il y a une proximité, il est tout près de cet endroit-là. Les amis, Paul dit, ce qui m'est arrivé, ça a contribué, en fait, à ce qu'on sache que c'est pour Christ que je suis là. J'imagine les soldats, ou le personnel, c'est qui Christ, c'est quoi, qu'est-ce que tu racontes. Et puis certains ouvrent leur cœur au message de l'Évangile, on est dans des temps de réveil, et puis ça discute, ça parle, et ça contribue. Et à côté, il y a le pire des empereurs, celui qui n'hésite pas à faire des chrétiens des torches humaines. Hein, il versait dans les sévices, il versait des essences ou de l'huile sur les chrétiens, des torches, et puis tous les jeux, etc. Enfin, je n'ai pas vu le détail. Mais c'était ça, Néron. Et donc, des gens se convertissent. Ça contribue. Il le dit doucement comme ça. Et si vous sautez... Alors, Michel, Samuel, si tu peux sauter... Et après, c'est Michel. Si tu peux sauter au verset 22 du chapitre 4. On est dans les salutations. Regardez bien ce que dit Paul dans ses salutations. Il dit, voilà, tous les chrétiens vous saluent, etc. Puis au verset 22... Tous les saints vous saluent, donc ceux de Rome, ils saluent les Philippiens, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. En particulier, vite fait comme ça, on le dit. Mais peut-être que Paul aurait envie d'écrire, vous savez, un tel s'est converti, un tel qui lave les mains et les pieds de Néron, c'est donner au Seigneur. Et un tel lui parle de l'amour de Christ, et un tel parle à sa femme, etc. Vous voyez, etc. Le témoignage, il n'y a pas que Paul, bien sûr, à Rome, il y avait d'autres chrétiens, mais Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre. Dieu accomplit son œuvre. On est passé d'église de Philippe à Rome. Paul écrit aux Philippiens, il dit « J'ai un bon souvenir de vous, c'était génial. » Et puis voilà, entre les lignes, entre les versets, ce qu'on peut écrire, ce que Dieu est en train de faire. Et on a tous, écoutez bien, on a tous un prétoire. On a tous un prétoire. Là où tu es. Je ne parle pas de... Bon, il y en a des qui doivent partir, hein, c'est pas pareil. Mais là, c'est notre prétoire ici. N'est-ce pas, Michel ? Viens seulement. Où est ton prétoire ? C'est la question que je pose.
Mon prétoire, il est en France, dans un magasin qui s'appelle Carrefour Lambert. C'est là où je peux évangéliser. Et donc, j'ai connu une personne qui s'appelle Danielle, c'est une dame, qui a des rhumatismes déformants. Donc, elle a les mains comme ça, encrochées. Donc, quand je l'ai vue, je lui ai demandé comment elle allait. Puis elle m'a dit, écoute, tu vois, mes mains sont comme ça. Le rhumatisme déformant, on ne peut rien faire, il n'y a aucun médicament, je suis jeune, je ne peux pas être à l'AI, j'ai une fille, je suis toute seule, enfin bon, bref. Je lui dis, écoute, si tu veux, moi je peux prier au nom de Jésus parce que j'appartiens à Jésus et Jésus, lui, il est vivant et il guérit. Elle m'a dit, oui, d'accord, mais tu sais, les rhumatismes déformants, il n'y a rien. Puis je lui dis, écoute-moi bien, Jésus, il n'y a rien qui lui est impossible. Alors j'ai dit, je vais prier pour toi maintenant, si tu es d'accord. Elle me fait d'accord. Donc je pose mes mains sur elle. Je lui dis, tu es d'accord? Elle m'a dit oui. Donc je pose mes mains sur ses mains. Je prie au nom de Jésus. Puis je lui dis, maintenant, vas-y, fais tes mains longues. Elle fait comme ça, un petit peu. J'ai dit, on remet les mains. Je repris de nouveau. Elle commence à faire ça, comme ça. J'ai dit, troisième fois, on va encore prier. Je prie mes mains, je pose mes mains sur ses mains. Je prie au nom de Jésus. Je chasse vraiment tout ce qu'elle a en elle, les rhumatismes, les douleurs et tout, je déclare sa guérison. Et d'un seul coup, elle fait « Ah, mes mains, elles se plient, c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait ?» J'ai dit « Moi, j'ai rien fait. » J'ai dit « Jésus, lui, il peut et il guérit. » Alors voilà, moi je peux vous demander une seule chose, c'est que est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Parce que cette personne, je veux vraiment qu'elle soit touchée par le Seigneur et j'ai vraiment besoin de recevoir des paroles de sagesse pour pouvoir lui en parler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Son prénom. Daniel.
Merci, Michel. Amen. Où est ton prétoire, Lambert? Où est ton prétoire? Posons-nous la question. Soyons pas dans l'attente d'un prétoire, mais là où on est, Dieu nous place, Dieu nous plante. Dieu fait une communauté à Philippe qui est là. Les gens se greffent dessus, cette communauté florissante. Parce que chacun est à sa place et chacun, chacune a un prétoire. On n'a pas à jalouser Michel en disant « Ouais, il y en a qui pourraient... » Pas du tout. Elle est à sa place, simplement. Je ne ferais pas ce qu'elle ferait. Peut-être qu'elle ferait pas ce que je ferais, je ne sais rien. Mais on est complémentaires et je me réjouis avec elle parce que Dieu l'utilise dans cet endroit-là. On n'est pas à se rivaliser, à chercher de la compète. Il y avait un peu de compète à Philippe entre ceux qui annonçaient l'Évangile. Alors Paul leur dit, écoutez, voilà, il y en a qui annoncent Christ comme ça, mais ça ne fait rien. Bon, Christ est annoncé, on s'en fiche. Et c'est le principal. On n'est pas appelé à se rivaliser, on n'est pas appelé à se dire, ouais, ça arrive qu'aux autres, mais à dire, oui, moi j'ai un prétoire. Il y a un animal qui reçoit des louanges dans le livre des Proverbes. Proverbe 30, verset 28. Proverbe 30, verset 28, c'est lequel animal ? Comment ? Quelqu'un sait ? Un animal, un petit animal qui reçoit des louanges, qui est parmi les animaux les plus sages, oui ? Alors, il faudrait voir si... Peut-être c'est mentionné, j'ai un doute maintenant, mais il y a un autre auquel je pensais, oui ? Oui, un lézard. Il y a un lézard qui reçoit des louanges. Je ne sais pas si vous savez où il était, ce lézard. À Genève, on a des lézards. À Jérusalem, il y a des lézards. Partout, peut-être pas en Antarctique, je ne sais pas, mais il y a des lézards partout. Ça fait la joie des enfants. Et le texte dit, dans Proverbe 30, verset 28, « Les lézards qui peuvent être attrapés avec la main, mais se faufilent jusque dans les palais des rois. » La parole de Dieu s'est faufilée à Rome jusque dans l'entourage, dans le prétoire. Ceux de la maison de César, encore une fois, on ne sait pas exactement qui c'était. Mais il s'est faufilé. On est des lézards. Non, mais c'est génial, un lézard. C'est trop bien. Regardez, où est-ce qu'il va? Partout. Imaginez un lézard au Conseil d'État. Un lézard dans la maison d'un tel, d'une telle, sous sa terrasse. Eh bien, c'est comme ça que Dieu nous place. Tout d'un coup, il ouvre une porte. Il nous a placés à un endroit. On peut avoir les uns et les autres une occasion qui ne se reproduira pas. Puis on est comme un lézard à un endroit particulier, à un bon endroit. Un jour, j'étais comme un lézard dans un palace. J'étais à un 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus ce que c'était, aux Antilles. Aux Antilles. Je suis arrivé là parce qu'on m'avait tout piqué. J'étais dévalisé, à part mes vêtements. Je suis arrivé dans cet endroit parce que c'était la gendarmerie qui avait réquisitionné ce palace. Il avait fait faillite, puis la gendarmerie l'avait réquisitionné, je ne sais pas pourquoi, comment. Et en fait, le gendarme m'a dit, mais on va te mettre là, il y a d'autres gendarmes, tu verras. Et parce que si tu restes, on n'a pas de prison pour te loger, on n'a pas d'endroit pour te loger. Et puis en fait, je suis arrivé là et j'ai vraiment eu ce sentiment, voilà, comme ce lézard, d'être là, parachuté. Ce n'était pas mon milieu. Et puis j'ai passé 3 jours avec ces gendarmes. 3 jours. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pendant 3 jours? Prier, j'avais rien à faire. Puis converser, discuter. Et c'était un moment phénoménal, extraordinaire. Une ouverture comme ça, voilà. Ça, c'est pas reproduit. Avant, j'avais été dévalisé, donc ça, c'était pas le côté sympa. Mais après, j'étais voilà, dans un palace, au bord d'une plage, privé, extraordinaire. Bon, voilà. Une ouverture. Et peut-être qu'on a tous des témoignages plus ou moins similaires. Et oui, j'étais à cet endroit-là, il y a eu une ouverture. C'était mon prétoire, là. Donc ce soir, demain, quand tu vas au travail ou dans ce que tu fais, tu dis, ah, ça c'est mon prétoire. Et je suis un lézard. Je suis un lézard. Je vais dans le palais, comment il dit, jusque dans les palais du roi. Est-ce que vous êtes d'accord ce soir de prier pour que les palais des rois s'ouvrent? Je ne dis pas, enfin, peu importe là où vous êtes, c'est égal, il n'y a pas une histoire de hiérarchie, d'aristocratie, mais peut-être quelqu'un va être envoyé, quelqu'un, je ne sais pas, va faire le ménage quelque part, etc. Et là, il ne faut pas se tromper, les amis. Comme la jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Vous vous rappelez? Ah, si mon Seigneur savait, s'il était en Israël, il pourrait aller voir le prophète, etc. Elle n'a pas dit, ouais, moi je suis chrétien, moi je suis juive, je connais tout, vous êtes des païens. Non, elle n'a pas pris de haut, mais elle était dans l'amour et dans l'humilité. Oh, Teresa, est-ce que tu veux venir? Je te prends par surprise. Est-ce que tu veux venir? Parce que Teresa, elle réalise des choses ces derniers temps qui sont, je crois, une perle ou des perles sur l'amour. Tu veux le dire ou pas? Ouais, ce que tu as dit ouais, l'autre fois. T'es d'accord?
Oui, en fait, quand on a commencé à prier dans les rues pour Jéricho, c'est vrai que on prie et tout. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est comme si je sentais qu'en priant, le Seigneur travaillait aussi nos cœurs. Parce que c'est comme si on apprend à aimer ces gens, même si on ne les voit pas des fois, parce qu'ils sont dans leurs appartements. Mais c'est vraiment comme si le Seigneur travaille aussi en nous. Et pour finir, plus tard, on va peut-être même aborder les gens et parler avec eux, parce qu'on apprend à les aimer aussi en priant. Je réalisais ça.
C'est tout simple, hein, mais c'est tellement vrai. Aimer les gens, pas vouloir les changer, pas vouloir les reprendre, mais aimer les gens. Encore une fois, comme cette ado, je pense qu'elle était ado, qui était au service de la femme de Naaman, qui a eu compassion de son maître, du mari, de cette dame, maîtresse de maison. Gagner les cœurs par l'amour de Dieu. être un lézard qui peut s'introduire dans le palais, dans le prétoire, là où Dieu nous place. Faut-il s'en enorgueillir ? Pas du tout. Je n'ai jamais vu un lézard orgueilleux. Bon, non, je n'ai pas vu beaucoup de lézards, mais c'est plutôt fuyant. Mais un lézard est un lézard. Il va où il veut, la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prie avec ces pensées qui sont là. Relire le texte et puis prier. Est-ce que c'est possible de croire qu'on a chacun un prétoire ? Et peut-être tu es à un endroit que tu n'es pas à la bonne place. Hein ? Donc ose demander, Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place ? Puis pas s'accrocher. Seigneur, change-moi de place si ce n'est pas au bon endroit. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour nous, ce n'est pas notre place, qu'on s'y est peut-être mis nous-mêmes. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, le retour de Christ. Voilà, je propose qu'on fasse des petits groupes, c'est bien ce soir on est un peu moins nombreux. Faisons des petits groupes et puis prions les uns pour les autres. Trois, c'est bien, comme ça, ça peut prier. On a entendu parler de l'amour de Dieu, motivation. On a entendu parler du magasin Lambert, qu'il y a des gens là-bas que Dieu aime. On a entendu parler du prétoire. Dieu a cherché à toucher Néron. Etc. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là ? Puis on peut se dire les uns les autres, moi je ne sais pas où est mon prétoire, ou alors moi mon prétoire c'est ça, je suis là et Dieu veut me mettre en bénédiction encore plus. Voilà, faisons des petits groupes et après on reprendra avec la Sainte-Seine.